On va ensemble voir un sujet qui est un sujet important, le retour de Jésus. Ça fait partie de l'espérance chrétienne. Jésus doit revenir. Il y en a qui attendent la fin du monde. C'est curieux d'ailleurs, depuis quelque temps, le nombre de films qui parlent de la fin du monde, de catastrophes écologiques, nucléaires. Et c'est quelque part l'angoisse un petit peu des hommes, des êtres humains. Mais les chrétiens n'attendent pas la fin du monde. Ils attendent le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant tout le long de cette année scolaire, hein, je parle en année scolaire, puisque c'est souvent un peu comme ça dans les églises, on a eu l'occasion de voir les paraboles du Seigneur. On va continuer avec quelques images que le Seigneur nous donne. Et puis, dans ces derniers temps, nous avons vu particulièrement des paraboles qui ont trait, qui parlent du retour du Seigneur Jésus. Et nous allons donc continuer sur cela. Et ce matin, le thème du message, c'est « Un voleur dans la nuit ». Un voleur dans la nuit. Jésus prend cette image du voleur dans la nuit. Ça fait un peu peur, hein ? Je ne sais pas si... Déjà, on a tout barricadé, des fois, on a encore peur, hein ? Mais c'est vrai que si on savait à l'avance que notre appartement allait être visité, pas d'une bonne façon, hein ? Je pense que nous aurions une attitude tout à fait différente. D'abord, je pense qu'on n'irait pas se promener. On resterait là et on attendrait peut-être de pied ferme. On demanderait à des amis de venir nous donner un coup de main. Voire peut-être on téléphonerait à la police du coin. Mais je pense qu'on ne dirait pas « Oui, bon, ben, y a quelqu'un qui va venir, il va tout nous voler, tout nous saccager. C'est pas grave. » Je ne crois pas. Et Jésus va prendre cette image. Alors on va lire quelques textes. C'est un petit peu long, mais il faut qu'on lise ces textes parce que vraiment, il nous parle de ce que le Seigneur veut nous dire au sujet de son retour. Alors le premier texte que nous allons lire se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12 et des versets 35 à 40. Voilà, ce n'est pas parce que c'est affiché qu'il faut, il ne faut pas chercher dans votre Bible. Je crois que c'est important aussi de lire. J'aime bien le son aussi des pages qui se tournent. Hein. Que vos reins soient sains, que vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, s'approchera pour les servir. Rien que ça, on voit que Jésus a une mentalité totalement différente de la mentalité des êtres humains. Quel est le grand de ce monde qui va mettre ses serviteurs à table et les servir? On n'a jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais Jésus dit qu'il va le faire. Il les fera mettre à table, s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième, troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voyez cette image que le Seigneur ici nous donne. Alors on va continuer en lisant un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Et tous ces textes complètent cet enseignement que le Seigneur désire nous donner sur son retour. Et puis, à la fin, quand on va avoir terminé de lire ces textes, eh bien, on fera quelques remarques, quelques enseignements qu'on veut garder dans notre cœur. Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 51. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qu'il dise en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas, alors qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Là encore, on retrouve cette même image que le Seigneur donne du voleur dans la nuit et du maître qui, s'il sait que le voleur va venir, eh bien, il ne va pas se laisser faire, il va défendre sa maison. Alors, pour que nous puissions bien comprendre ce à quoi le Seigneur fait référence, je pense qu'il faut qu'on lise ensemble aussi le texte qui se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, qui parle justement du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église, parce que vous avez lu avec moi dans ce texte de Matthieu, où il est dit que de deux personnes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, que de deux femmes qui seront ensemble en train de moudre le grain à la meule, eh bien l'une sera prise et l'autre laissée. De quoi Jésus parle-t-il ici? De quel enlèvement sera... De quel événement parle-t-il? De quel enlèvement parle-t-il? Alors, pour comprendre ce qui est dit à ce sujet, eh bien, il faut qu'on se réfère au texte qui se trouve donc dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, et à partir du verset 13, jusqu'au chapitre 5 et verset 6. Voilà ce que dit l'apôtre Paul à ses chrétiens de Thessalonique. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Le texte original emploie même l'expression de ceux qui dorment, parce que c'est l'image de ceux qui sont morts dans la paix. afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, et bien sûr il parle de ceux qui sont vivants à l'époque de cet événement. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Encore une troisième fois, nous avons cette expression. Et j'ai noté d'ailleurs que dans les Écritures, il y a encore trois autres fois où c'est employé cette expression, cette image du voleur qui vient dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. C'est vrai ?
Amen.
Amen. Et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Quel événement, hein ? Le Seigneur nous enseigne qu'à un moment donné, à un signal donné de la part du Seigneur, eh bien, les morts vont ressusciter. Mais pas seulement que cela, les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, parce que le Seigneur va venir et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quel voyage, hein ? Je ne sais pas si vous avez le mal des hauteurs, je ne sais pas si on aura peur ou pas, je crois qu'on n'aura pas le temps, mais toujours est-il que c'est un événement extraordinaire qui nous est décrit ici. C'est l'attente de l'Église. Nous avons ce désir au fond de notre cœur, un jour, d'être réunis avec le Seigneur dans sa gloire. Les morts d'abord ressuscitent, les vivants sont enlevés, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Vous relirez aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 51 et 52 où il est parlé, n'est-ce pas, de ce moment où tous nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette. Alors on va un petit peu réviser, s'il y a besoin, un petit peu les grandes phases du retour de Jésus, pour que ce soit bien clair dans notre esprit, dans notre tête. D'abord, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a la résurrection des justes. C'est le premier événement. Lorsque Jésus revient sur les nuées, non pas les pieds sur terre, mais dans le ciel, dans les nuées, alors les morts en Christ ressuscitent. Et ensuite, les vivants sont enlevés. L'enlèvement, l'un est pris, l'autre laissé. Jésus parle, l'apôtre Paul parle plutôt, de retrouvailles, de réunions avec ceux qui sont morts en Christ. Ce sera, je crois, un temps extraordinaire de joie. C'est pourquoi il dit que, avec une telle espérance, nous pouvons nous consoler les uns les autres. Nous ne sommes pas sans espérance, dira Paul. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de religions. Il y avait beaucoup de cultes, divers et variés. Il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de déesses, beaucoup de pratiques religieuses. Mais il parle ici d'espérance. Ces gens, la plupart, il dit, nous ne sommes pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance. On peut être religieux et ne pas avoir d'espérance. Ce qui est important, c'est d'avoir ces paroles, ces promesses du Seigneur Jésus dans notre cœur, parce que c'est ça qui va donner de l'espérance et qui va garder au fond de nous, n'est-ce pas, cette image qu'un jour nous allons retrouver ceux et celles qui nous ont quittés, mais ceux et celles qui nous ont quittés en Jésus-Christ le Seigneur. La Bible parle aussi que lorsque, après l'enlèvement, il y a ce temps des noces de l'agneau, et vous avez remarqué, pour ceux qui ont suivi toute cette série de paraboles, où il est souvent question de Jésus qui parle d'un roi qui fait des noces pour son fils, qui invite des gens qui n'ont pas voulu venir, puis qui ensuite dit, eh bien, allez partout, sur les chemins, le long des haies, dans les carrefours, allez appeler les gens et dites-leur de venir, jusqu'à ce que la salle soit pleine. Ça, c'est l'image de l'annonce de l'Évangile à tous. Nous sommes tous invités. Et il faut qu'on y soit, hein, parce que l'enjeu est important. Les noces de l'agneau. Vous relirez ça, si vous voulez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Et à partir du verset 7. Mais nous avons lu aussi que le Seigneur parle d'une ruine soudaine. Il parle dans plein de textes de détresse. De jours même de détresse telle qu'il n'y en a pas eu sur la terre et qu'il n'y en aura jamais plus. Ce sera un temps unique. Un temps aussi de jugement sur le monde. Dans l'Ancien Testament, la Bible appelle ce temps le jour de l'Éternel, qui est un temps à la fois souvent terrible, un temps de jugement. C'est aussi, et ce matin nous simplement nous traçons les grandes lignes, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, où il est question du règne de l'Antichrist, de cet homme qui prendra, de ce système qui prendra le pouvoir sur le monde entier, et que ce sera une période terrible. Et puis, le retour en gloire de Jésus sur les nuées du ciel, où il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Rappelez-vous ce qu'il disait au moment de partir, ou du moins ce que les anges disaient, de la même manière que vous l'avez vu partir, il reviendra. C'était à cet endroit même. Et puis la Bible parle aussi de 1000 ans, on appelle ça le millénium, 1000 ans de règne du Seigneur. Un règne de paix, de bonheur, de joie, de prospérité, de santé, où il est dit que celui qui va mourir à 100 ans mourra jeune. Et cette période sera une période unique dans l'histoire du monde. Et puis enfin, il est question du jugement dernier. Nous l'avons déjà évoqué au travers notamment d'une parabole. Et puis de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est les grandes phases du retour de Jésus. Voilà ce que nous attendons. Voilà ce que nous espérons. Parce qu'en fin de compte, c'est le moment où le Seigneur va revenir régner. Il viendra dans sa gloire. Non plus comme le petit enfant qu'on va chercher à éliminer. Non pas comme l'homme, le simple homme que on cherche à écarter, à éliminer, et qui on va crucifier, dont on va se débarrasser en quelque sorte. parce qu'on ne l'a pas reconnu, mais le Seigneur de gloire, il reviendra dans toute sa gloire avec ses enfants, avec ses saints, et ceux, je crois, qui seront enlevés avec le Seigneur, eh bien, seront aussi avec lui dans ce retour en gloire. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ces choses, peut-être qui ont un peu clarifié ce grand événement que nous attendons et qui est, depuis le début de l'Église, l'espérance de l'Église. Amen. Viens, Seigneur. L'Esprit, l'Épouse disent « Viens ». C'est la prière de l'Église. Reviens, Seigneur. Viens mettre un terme à la méchanceté, au malheur, à la souffrance, à toutes les choses ignobles qui se passent sur cette terre. Viens, Seigneur. Nous attendons son retour. Alors, quelles doivent être nos attitudes, notre réaction, nos attitudes face à cet événement? Alors, comme nous l'avons lu à plusieurs reprises, Jésus prend donc l'image du voleur qui vient à la nuit pour dérober. Il y a là donc l'idée d'un effet de surprise. Vous n'avez aucun voleur qui va vous envoyer une carte de visite en disant « à telle heure, à tel endroit, je serai là ». Bien sûr que non. C'est un effet de surprise total. Et nous avons lu dans les textes qu'effectivement, l'avènement du Seigneur se fera brusquement, sans prévenir. L'expression est employée au moment où vous ne vous y attendrez pas. Le moment où vous n'y penserez pas. C'est quelque chose auquel ce sera sorti de notre esprit. On n'y pense pas. On est occupé dans la vie. On est pris par un tas de choses. Et le Seigneur ne va pas nous envoyer une carte de visite et nous prévenir à l'avance. Il nous a prévenus il y a bien longtemps. Quand la Bible dit « Je viens bientôt », c'est pas simplement comme nous on peut comprendre bientôt, c'est-à-dire dans le temps, c'est dans une heure, c'est demain, c'est dans les jours qui suivent. En fait, ça pourrait être traduit aussi « Je viens rapidement ». Je viens vite. Le retour de Jésus se fera rapidement, vite. On n'aura pas le temps de se dire vite, il faut se préparer. Vite, c'est maintenant. L'Écriture parle en un clin d'œil, comme l'éclair part d'un côté à un autre. Vous savez, l'éclair, on la voit, mais on n'a même pas eu le temps de réaliser que déjà c'est fini. Effet de surprise, total, complet. Notion de rapidité de l'événement, ce qui implique d'être prêt. On n'aura pas le temps de se préparer. C'est maintenant qu'il faut être prêt. Et vous avez vu l'image qui est employée, c'est la même image que, c'est le même commandement que le Seigneur a donné aux gens qui devaient sortir d'Égypte. Vous savez, quand le Seigneur est venu, le soir de Pâques, la nuit de Pâques, Dieu avait dit, je vais passer sur le pays. Mais vous, tenez-vous prêts. D'ailleurs, vous allez manger ce repas à la hâte. Vous allez avoir votre bâton à la main. Vous allez avoir vos reins sains. Vous allez avoir vos sandales aux pieds. Vous devez avoir préparé les bagages. Tout doit être prêt. Pas question de traîner. Parce que, au moment voulu, ce sera maintenant et il faut le faire rapidement. Donc, voilà pourquoi les Juifs, au moment de la Pâque, mangent aussi du pain qui n'a pas été levé, parce qu'il n'a pas eu le temps. Il y a cette notion d'être prêt, et parce que c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Que vos reins soient sains. Alors, je rappelle que cette expression, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'à l'époque, il y avait des tuniques, on mettait donc des ceintures, et pour ne pas gêner les mouvements, quand on travaillait ou quand on marchait, on repliait les bords de la tunique dans la ceinture pour pouvoir dégager un peu les jambes et pouvoir être plus à l'aise pour marcher. Être saint, ça voulait dire être prêt, avoir sa ceinture, ça voulait dire on n'est pas là tranquille. Bon, à l'époque, les fauteuils étaient peut-être un petit peu primaires et quelque peu différents des nôtres, mais pas question de se laisser aller. Il faut être prêt, quoi. Et le message du Seigneur est toujours le même aujourd'hui. Il faut être prêt à l'avance. Pas question de se relâcher. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Et bien sûr, surtout pas les témoins de Jéhovah. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Vous savez bien comme moi que bien des gens se sont risqués à faire des pronostics de cet événement. Alors certains ont dit, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure, mais peut-être qu'on connaît la période. On connaît l'année. Bien sûr, tout ça, c'est du baratin. Ça s'est révélé inexact. Parce qu'en fin de compte, il y a là cette notion de se dire, de toute façon, même les anges, il n'y a pas un ange qui peut nous révéler la chose. Personne ne le sait. Seul le Père Céleste connaît le jour et l'heure. C'est lui qui doit donner l'ordre de ce signal. Personne ne connaît. Alors peut-être certains diront, oui, mais ça fait si longtemps qu'on attend. C'est ce que l'apôtre Pierre dira dans son épître. Il dit, dans les derniers temps, ben, il y a des gens qui vont se moquer, vont dire, mais ça fait tellement de temps qu'on en parle. L'Église, ça fait 2000 ans qu'elle attend. Alors, ça mettra bien encore 2000 ans. Hein. On a le temps de faire nos affaires. Je crois que, justement, ça arrivera au moment où on y pensera le moins. Parce que, justement, peut-être que tout au long de ces siècles, on a fini par s'habituer, de se dire, mais l'Église attend ça depuis tellement de temps. On a tellement entendu des chrétiens, des frères, des sœurs, dans nos églises, qui nous disaient, c'est bientôt, ça arrive, regardez tel événement, regardez tel autre. Mais vous savez, les événements, ça passe. Et souvent, il y a des choses qui se ressemblent. Mais en fin de compte, l'important, ce n'est pas de jouer à la devinette. Ce n'est pas de lire les derniers bouquins à la mode sur les différentes révélations, en disant « Ah, il y a ceci, il y a cela, il y a telle personne, il y a tel événement. Alors c'est maintenant !» Ça nous surprendra tous. On ne s'y attendra pas. Personne ne connaît le jour et l'heure, et je vous invite à faire attention à ne pas jouer aux devinettes, mais simplement à vous attacher à la réalité de Jésus et aux paroles du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, voilà. Alors, le Seigneur nous dit, il faut qu'on attende, mais sans nous laisser anesthésier par les soucis de la vie. Et le Seigneur prend l'histoire de Noé. C'est vrai que si on avait pris l'histoire de Noé, peut-être qu'on n'aurait pas franchement parlé de ces gens qui mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Peut-être qu'on aurait pensé à l'époque de Noé où la Bible dit qu'à cette époque-là, les gens vivaient dans la méchanceté, dans la violence. Ils avaient détourné tout, ils avaient rejeté Dieu de leur vie. Peut-être que c'est ces choses-là qu'on aurait prises. Mais Jésus va nous parler, en fait, de quoi ? Du train-train quotidien. De la vie ordinaire de l'être humain. Manger, boire, faire beaucoup d'efforts pour ça. Se marier, marier les enfants, s'occuper de la famille. Ce sont les choses élémentaires de l'existence. Et ces choses élémentaires, ces choses que nous vivons tous les uns et les autres, ne doivent pas prendre le pas sur l'espérance et sur l'attente que nous avons du Seigneur et de son retour. Ce n'est pas ces choses-là qui doivent être en premier, mais ce sont les choses de Dieu qui doivent être en premier dans notre vie. Nous ne devons pas nous laisser anesthésier par les soucis de la vie, pour reprendre une expression aussi de Jésus, les choses quotidiennes, les préoccupations quotidiennes qui ne sont pas forcément mauvaises. Parce que ce qui est remarquable dans les exemples que le Seigneur a donnés ici, au temps de Noé, il ne prend pas des choses mauvaises. Il ne prend que des choses normales, humaines, mais qui ne sont pas mauvaises en soi. Pourtant, voyez-vous, ces choses-là ont fini par prendre le pas sur l'attention que tous ces gens devaient avoir par rapport à la parole que Dieu avait donnée longtemps à l'avance à un homme qui s'appelle Noé et qui construisait une arche. En fait, les gens se sont laissés bercer d'illusions, se sont laissés prendre par les choses de la vie, la vie courante, et ils ont fini par ne plus faire attention à cette annonce, à cet avertissement que Dieu donnait à Noé en disant « Attention, attention, ce monde dans lequel vous allez vivre, dans lequel vous vivez, eh bien Dieu va le détruire par les eaux. » Alors nous sommes un peu dans la même, j'allais dire, dans le même état d'esprit, tout au moins dans les mêmes circonstances. Un autre point que nous avons besoin de souligner, que le Seigneur souligne dans les textes que nous avons lus, c'est la nécessité d'accomplir la mission qu'il nous a donnée. Quel est le serviteur que le maître a établi pour donner la nourriture en son temps? Heureux ce serviteur que le maître va trouver en train de faire ce à quoi il a été destiné. Ce pourquoi il a été embauché. Et qu'il ne soit pas en train de s'amuser dans un coin, voire même plus, en train de dominer les autres, de les asservir, d'agir avec violence et méchanceté, de se laisser aller au désordre, d'aller boire avec les ivrognes. Voilà. C'est-à-dire que dans ce temps d'attente, dans ce temps où le Seigneur dit « Je vais revenir », vous ne savez pas à quel moment, je vais venir au moment où vous ne vous y attendez pas. Et d'ailleurs, c'était vrai pour ce serviteur qui s'était laissé aller à une vie de désordre. Eh bien, en fin de compte, pendant ce temps-là, il se laissait aller. Et quand le maître est arrivé, il n'était pas à son poste, et il n'était pas en train de faire, et on voit comment le maître le lui a reproché, même, l'expression est terrible, il l'a mis en pièces. L'expression est terrible quand même. Pendant le temps d'attente, ce n'est pas une attente béate, en train d'être là, les yeux au ciel, dans une espèce d'extase mystique. Rappelez-vous ce que ces anges ont dit aux disciples qui voyaient Jésus s'élever et qui étaient là, je pense, la bouche ouverte. Ah, ils n'avaient jamais rien vu comme ça. Et d'un seul coup, les nuages, les nuées ont dissimulé Jésus et ils étaient toujours la bouche grande ouverte, les yeux au ciel. Et peut-être qu'ils auraient très bien pu faire le culte, hein, des bouches ouvertes et des yeux au ciel. Eh oui, parce que un événement comme ça, hein, je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui auraient construit un mausolée, un édifice, une église, un temple, une synagogue ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui... Là, on aurait tout, c'était... Pour rendre un culte à Dieu, il faut... Non, qu'est-ce qu'ils ont fait les anges? Ils ont dit, oh, oh. Ne passez pas votre temps à regarder au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé, eh bien, de la même manière, il va revenir. Mais en attendant vous, eh bien, vous avez une mission. Allez ! Faites ce qu'il vous a dit. Et l'Église a une mission à remplir. Pendant ce temps d'attente, ce n'est pas une attente passive. On attend, on verra bien ce qui va arriver. Mais c'est bien le contraire. C'est une attente active. On a une mission à remplir. Dieu a voulu faire de nous des serviteurs et des servantes. Dieu a voulu qu'on s'occupe aussi des autres pour les aider, pour leur venir en aide, pour leur apporter cette parole d'espérance. On rencontre tant de gens désespérés, dans la tristesse, cassés par les choses de la vie, blessés. Je crois qu'on a besoin de remplir cette mission et de ne pas être là en train de passer notre temps à nous amuser et à faire un peu n'importe quoi et à vivre un peu dans le désordre alors qu'on a une mission à accomplir, une mission à remplir. C'est ça l'enseignement du Seigneur. Si le Seigneur doit revenir rapidement, sans prévenir, comme un voleur dans la nuit, alors nous devons nous dire que le Seigneur à tout instant peut venir, arriver, et nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons à faire ce que le Seigneur nous demande de faire, les uns et les autres. On voit aussi que la relation et le comportement avec les autres est aussi important. Ce serviteur se met à maltraiter les autres. Et ça, je crois que le Seigneur ne supporte pas ce genre de choses. Nous avons été appelés à aimer. Tu aimeras ton prochain. Dans le monde, c'est souvent tu maltraiteras ton prochain. Ça va lui faire les pieds. Tu maltraiteras. Mais le Seigneur dit, tu aimeras. Aimer, dans le langage de Jésus, c'est pas avoir des bons sentiments. C'est faire du bien. C'est très concret. C'est secourir celui qui est dans le besoin. C'est être prêt à rendre service. C'est être prêt à se bouger, à changer, à bouleverser sa façon de vivre, d'être, pour se porter au secours ou à l'aide de quelqu'un. C'est ça, aimer. Et vous vous souvenez que quand Jésus a parlé d'aimer son prochain, la réponse de cet homme à qui Jésus disait ces choses, c'était de dire « Mais alors, qui c'est mon prochain ?» Et Jésus va prendre l'image d'un homme qui va tomber entre les mains d'un brigand ou des brigands qui sont malmenés, qui est laissé comme mort, blessé par la vie. Et en fin de compte, l'image que Jésus va prendre, c'est quelqu'un qui est capable de s'arrêter, de se détourner de son chemin, capable de prendre du temps, capable de faire les efforts et même de payer de sa personne, parce qu'il est dit qu'il a mis le blessé sur sa monture, ça veut dire qu'il a marché quand même à pied à côté, hein, parce qu'il n'y avait pas de place pour deux. Et puis ensuite, il est dit qu'il a payé l'hôtellerie en disant, ben, si je te dois quelque chose de plus, eh bien je te paierai à mon retour. C'est quand même quelque chose, ça, non? Réfléchissons un peu à ces choses. C'est ça, aimer. Et pas un truc théorique, simplement un sentiment. C'est quelque chose de très concret. Et Dieu nous invite dans une relation et un comportement avec les autres qui est une relation et un comportement où il y a de l'amour, de la considération. Or, on voit que le mauvais serviteur dont il est question ici, c'est pas tant qu'il ait bu avec les ivrognes, parce que ça le touche lui. Et à la limite, on pourrait dire, ça le regarde. Mais on voit qu'il s'est mis à maltraiter les autres. Et d'ailleurs, vous le savez bien, l'ivrognerie, ça va souvent avec de maltraiter les autres. Pour ne pas dire toujours. Et puis, dans le texte des Thessaloniciens, enfin, il est question de vivre dans la lumière. Paul ajoute juste après nous avoir parlé de cet événement extraordinaire où, où les croyants, l'Église est enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que Jésus dira à un autre endroit, quand on vous dira le Christ est ici ou il est là, c'est pas la peine de courir. Parce que la rencontre, elle se fera en un instant dans les airs. Il est question, Paul, après nous avoir parlé donc de cet événement extraordinaire, dit, mais vous n'êtes pas du genre à vous laisser surprendre. Vous n'êtes pas de ceux qui vont être pris quelque part en défaut. Vous savez dans quel temps nous sommes. Pourtant, Jésus dit, vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Mais ici, Paul a l'air de nous dire, mais quand même, quelque part au fond de vous, vous avez un petit peu cette idée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Moi, je crois qu'il veut dire par là que quand on vit dans la lumière, eh bien, on vit dans ce temps de préparation où on est prêt à partir avec le Seigneur. Vivre dans la lumière, c'est vivre dans ce que le Seigneur nous donne. Il est la lumière. On n'a pas besoin de se cacher, dissimuler. Ah, il ne faut pas que les autres le sachent. La lumière, c'est être transparent. C'est de vivre tout simplement ce que Dieu nous dit de vivre. Et à ce moment-là, nous n'avons pas besoin de nous casser la tête. On n'a pas besoin d'être là dans l'inquiétude. Est-ce que le Seigneur va revenir aujourd'hui, demain? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je ne suis pas prêt? Si on vit dans la lumière, eh ben on est prêt à être emmené avec le Seigneur. Quand l'Écriture emploie cette expression d'être enlevé, dans le texte original, dans le grec, c'est un mot qui veut dire simplement comme qui est employé pour parler des aimants qui attirent. Vous savez, l'aimant a une caractéristique, il va attirer quelque chose qui fait partie d'une certaine matière. Si vous mettez un aimant sur un bout de plastique, eh bien, vous pouvez avoir un aimant extrêmement puissant. Le bout de plastique ne bougera pas. Si vous mettez de l'aluminium, c'est la même chose. Par contre, si c'est quelque chose qui est d'origine avec du fer à l'intérieur, alors il va se passer quelque chose. Il est attiré. Vous savez, quand on a besoin de faire un tri, les bricoleurs connaissent ça, et qu'il y a plein de vis, de boulons répandus, n'est-ce pas, ben, avec peut-être d'autres choses, du bois, ils prennent un aimant, et puis hop, il n'y a que ce qui est fait partie de ces pièces métalliques qui sont attirées. Vous savez, le Seigneur, quand il va revenir, il va attirer ceux qui sont de sa nature. Et il va pas se tromper. Il va pas faire ça à la tête des uns et des autres. Hein. Parce que, en fin de compte, comme un aimant va attirer la limaille de fer ou tout ce qui est en fer, en acier, etc., eh bien, ce qui émane de la personne du Seigneur va nous attirer et attirer ceux qui sont ses enfants, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont rachetés, ceux qui ont été pardonnés, ceux qui marchent dans la lumière. Parce que continuellement dans la parole de Dieu, le Seigneur dit que il est dans la lumière, comme nous sommes dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Jésus est la lumière, mais Jésus dira, vous êtes aussi la lumière. On a la même nature. On lui ressemble. Et on sera attiré par ce qui lui ressemble. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons attire ceux qui sont de la même nature que lui, hein. Et d'ailleurs, on doit se poser des questions. Si on est attiré par ce qui se passe dehors et par les choses qui sont du monde, parce que ça veut dire quelque part qu'au fond de nous, nous sommes de la même nature. Et si les choses de Dieu nous attirent, alors ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire que quelque part, au fond de nous, nous sommes de la même nature. Et nous sommes attirés par le Seigneur. Est-ce que c'est une corvée de suivre Jésus? Est-ce que c'est un devoir religieux? Est-ce que je le fais simplement parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un? Ça arrive, hein, ça, quand on est enfant, quand on est adolescent. On y va parce que sinon les parents vont nous tomber dessus. Hein. Mais alors, si on pouvait être ailleurs... Est-ce que la nuit nous attire? Les ténèbres nous attirent? Ou est-ce que le jour, la lumière nous attire? Je crois que quand on se convertit au Seigneur, il y a un changement d'attirance. On est attiré par autre chose. Le monde dans lequel nous vivons est attiré par l'argent, par les plaisirs, par toutes sortes de choses malsaines. Mais l'enfant de Dieu, lui, est attiré par autre chose. Et la parole de Dieu dit, tel il est dans le monde, tel aussi nous sommes. Est-ce que c'est vrai? C'est une question de nature. Lorsque le Seigneur va venir, il attirera à lui ceux qui lui appartiennent, qui sont de la même nature. Et il n'y aura pas pour lui beaucoup d'efforts à faire, parce que ça s'attirera tout seul. C'est presque physique. Que Dieu nous bénisse. Voyez-vous, dans ces paraboles, au travers de ces petites histoires, tirées de choses que les gens connaissaient bien de l'époque, en fait, Jésus nous parle de choses extrêmement importantes. Le retour son retour en gloire. Il reviendra. Alors nous voulons dire Amen, Seigneur. Viens, Seigneur. Amen. Viens, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Ou bien au fond de ton cœur, tu dis oui, viens, mais le plus tard possible. Parce qu'avant, je voudrais bien faire ceci, j'aurais bien faire ça, j'aurais bien faire encore ceci, encore cela. C'est révélateur, vous savez. En fait, ce que nous pensons est révélateur. Est-ce que ça nous intéresse? En fait, au travers de ce que le Seigneur nous dit ici, c'est la chose la plus extraordinaire. Nous serons avec lui pour l'éternité. On aura fini avec toute cette misère, toute cette détresse, toute cette déchéance. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Quelle grâce! Ça, nous le serrons dans notre cœur. J'espère que nous le serrons tous dans notre cœur. Et j'espère ce matin qu'on est tous prêts au décollage. Parce que ça va venir sans prévenir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour ta parole qui nous enseigne. Nous voulons vivre jour après jour dans ta lumière. Ne pas nous laisser aller à simplement choses qui sont sur cette terre. Ne pas nous laisser anesthésier par les soucis de la vie ordinaire. Mais Seigneur, nous voulons être là ensemble, nous soucier de tes paroles. Tu dis qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure, que tu viendras rapidement. Il y aura comme un effet de surprise. Alors nous voulons être prêts, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur, ce qui est dans le cœur des uns et des autres, mais je voudrais te demander grâce pour que les uns et les autres, nous soyons prêts. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer à l'avance, que personne ne soit pris au dépourvu. Et que, comme à l'époque de Noé, quand le temps est venu, quand la porte a été fermée, quand le déluge est tombé, alors Noé et sa famille étaient prêtes. Ils étaient dans l'arche. Malheureusement, les autres étaient dehors. Ils ne s'étaient pas laissés avertir. Ils n'avaient pas pris au sérieux. Ah Seigneur, donne-nous ta grâce ce matin et de réaliser ces choses. Et donne-nous d'être fidèles pour annoncer ta parole fidèlement au nom de Jésus. Amen.